affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Au cours de notre émission de ce jour, nous allons parcourir la vie d'un homme, mais ce faisant, nous allons aussi cheminer tout au long de l'histoire longue de l'humanité. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio celui que les médias ont souvent pris l'habitude de nommer le papa de Lucie, mais nous découvrirons qu'au fil de sa longue carrière, il a eu bien d'autres surnoms, comme celui de l'homme du Tchad ou encore Monsieur Mammouth. Vous l'avez bien compris, nous avons la chance de recevoir dans notre studio le paléoanthropologue Yves Coppens, membre de l'Académie des sciences, professeur au Collège de France, à l'occasion de la parution de ses mémoires joliment titrées Origine de l'homme, origine d'un homme. Les deux sujets se confondent évidemment car il s'agit de mémoire professionnelle. Yves Coppens, chacun le sait, est un homme de passion. Il a eu une chance, c'est de pouvoir non seulement la mettre à profit, la mettre en œuvre, mais aussi d'avoir une passion précoce qui va nous permettre de commencer ses mémoires dans la tendre enfance et non pas, comme c'est souvent le cas de mémoires professionnelles, lors de l'entrée dans le métier. Pouvez-vous nous parler de la naissance de cette passion, Yves Coppens?
Je voudrais bien, mais ça m'est difficile tout simplement parce que la naissance, véritablement, je ne la retrouve pas bien. Tout ce que je sais, c'est que des souvenirs de passion, d'intérêt, de fascination même, pour l'histoire ancienne, pour la préhistoire, pour tout ce qui est un peu enfoui, en quelque sorte, est apparu chez moi très très tôt. Et c'est pour ça que je pense que c'est plus lié à l'imagination de l'enfance qu'à un contact, un choc quelconque avec quelque chose. Ceci étant dit, comme je suis né en Bretagne et que mes parents habitaient Vannes, mais qu'ils avaient une maison à la Trinité-sur-Mer. La Trinité-sur-Mer, c'est en plein dans le quartier, dans le secteur, dans la grande région de Carnac, Quiberon, Etel, etc., remplie de monuments mégalithiques. Donc il est certain, enfin il est probable, que la rencontre de ces grandes pierres, grosses pierres, n'a pas été anodine dans mon inspiration. Et ça a dû jouer un rôle. Ceci étant dit, je me rappelle d'autre chose. Cette fois, c'est de fossiles. Vous voyez que la paléontologie commence un peu tôt aussi dans mon existence. Il y a eu donc cette grande guerre de 39-45, et mon père a été mobilisé, mon père est parti sur le front de l'Aisne et des Ardennes, dans ce coin du nord-est de la France. Et je sais qu'il est revenu en permission, alors je pourrais pas vous dire quand, mais comme il est parti en 39, sans doute en 40-41, il est revenu en permission avec quelques fossiles, quelques invertébrés fossiles, qu'on appelle des griffés, sont des invertébrés classiques, hein, mais qu'il avait trouvés dans une tranchée du côté de l'Aisne ou des Ardennes. Je suis retourné avec lui d'ailleurs dans toute cette région pour lui faire une sorte de pèlerinage, et il avait été très 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 ému parce qu'il se souvenait d'un endroit où les Allemands déjà présents les avaient alignés lui et ses camarades dans une tranchée, et il ne savait pas du tout si c'était pour les mettre à l'abri ou au contraire les exposer à une fusillade. En tout cas, mon papa m'a rapporté des Ardennes quelques fossiles d'invertébrés, et ça a constitué ma toute première collection. Alors, je n'ai pas été véritablement collectionneur, mais quand même, j'ai commencé par une collection de quelques objets comme ça. Donc, entre les grosses pierres et les petites pierres, vous voyez, les grosses pierres néolithiques, ça fait 7000 ans, et puis les petites pierres du secondaire, c'est plus de 100 millions d'années. Voilà ma fascination pour ces choses. Elle n'a pas oscillé, elle a tapé un peu sur les deux tableaux. Mais ce sont les souvenirs les plus anciens que j'ai. Mais enfin, ce sont quand même des souvenirs, comme je suis né en 34, des souvenirs de 7 ans, 6, 7 ans, quelque chose comme ça, quoi.
Vous parlez dans l'ouvrage de votre collection d'antiquités, car au départ, il ne s'agit pas précisément nécessairement de préhistoire. Vous êtes aussi intéressé par la présence gallo-romaine importante dans cette région.
Oui, bien sûr. Mais vous savez, dans cette histoire, moi, je retrouve ça chez des gens qui sont orientés dans la vie vers tout à fait d'autres professions, mais qui restent un peu curieux. Et quand on est curieux, dans quelques régions que ce soit, on est intéressé par beaucoup de choses, par l'histoire ancienne, l'histoire tout court, la préhistoire, enfin tout ça c'est un petit peu mêlé, voire les sciences naturelles, mais ça c'est quand même quelquefois un petit peu différent. Et je reçois aussi beaucoup de lettres de jeunes enfants, de très jeunes enfants parfois, et leur fascination va aussi vers ces sciences-là ou ce regard-là. Et c'est pour ça que je pense que l'imagination joue un rôle important, quoi.
Et pas seulement l'origine, si je comprends bien.
Peut-être l'origine, mais alors ça c'est plus philosophique. Et je crois en effet que chacun a besoin d'origine, chacun a besoin de racines, et que ça c'est pas simplement lié à l'enfance, c'est lié à tous les gens du monde, tous les humains, et en même temps toute leur culture, toute leur civilisation. Toute civilisation cherche une origine. Moi, quand je travaille dans un pays et que je découvre les restes humains les plus anciens de ce pays, et que ce pays comme l'Éthiopie entre tout d'un coup dans le berceau de l'humanité, les chefs de l'époque, moi, à l'époque où j'ai trouvé ça en Éthiopie, c'était l'empereur. L'empereur d'Éthiopie n'a eu de cesse de parler de l'entrée de l'Éthiopie dans le berceau de l'humanité au moment de cette découverte, et c'était en 67. C'est-à-dire que vraiment, vous avez raison, l'origine ou les origines, ça représente une espèce de recherche spontanée et tout à fait partagée par tout le monde.
Alors dans les jalons qui permettent de fixer l'imagination d'un enfant, moi j'étais très touché par les pages qui concernent les musées d'histoire locale ou les sociétés savantes locales. Je ne sais pas si elles existent encore et sous la même forme, mais c'est une très belle évocation. Notamment, ce qui frappe, c'est l'accès facile et l'accueil dont on pouvait y bénéficier. Est-ce que vous pouvez d'une part nous raconter cela et puis nous dire si vous pensez que c'est encore possible aujourd'hui?
Oui, c'est sûrement possible aujourd'hui. Il se trouve que, enfin, comme vous le savez bien, au milieu du 19e siècle, quelque chose comme ça, sont nés dans toutes les provinces et notamment dans tous les départements, à l'échelon départemental, des sociétés. Alors ce sont des sociétés d'histoire ancienne, sociétés d'histoire naturelle, sociétés de sciences archéologiques. Et ces sociétés ont eu des noms variés, mais c'est toujours la même chose, quoi. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que un certain nombre de personnes dans la société civile, des gens d'une certaine instruction, d'une certaine connaissance, ou pas d'ailleurs, et puis des gens aussi ayant quelques libertés. Alors je pense dans les régions, ce sont les médecins, ce sont les instituteurs, les curés à une certaine époque et dans cette partie-là de la France. Et ces gens-là accordaient volontiers une partie de leur temps à cette recherche tout à fait amateur. Mais finalement, c'est cet amateurisme, amateur ça veut dire qu'on aime, c'est cet amateurisme qui a fabriqué certaines sciences. Enfin, la préhistoire est née de ce monde amateur. Et ces sociétés dites savantes départementales ont joué sûrement un rôle très très important, en tout cas en France, dans la naissance et l'épanouissement de certaines de ces sciences. Enfin, sur le plan des sciences que je connais, l'archéologie, la préhistoire, la France a joué un rôle très très important, et la préhistoire est pratiquement née en France. j'exagère peut-être un petit peu, mais à peine. Et au point que bien des niveaux géologiques, des niveaux archéologiques, des niveaux préhistoriques portent des noms français, quoi. Magdalénien, ça vient de la Madeleine. Abilien, ça vient d'Abbeville. Chélien, ça vient de Chelles, tout près de Paris. Achelien, ça vient de Saint-Achel. Et je pourrais les multiplier. Hein. Solutréen, de Solutré, etc. Et ces noms ont couru le monde avant que ailleurs dans le monde, les chercheurs accordent des noms locaux, tout à fait locaux, à leur découverte. C'était ces noms français de base, en quelque sorte, qui étaient utilisés. Alors là, je déborde un peu de ma réponse, mais ça signifie que dans ces départements, les sociétés dites savantes ont encore, mais quand même beaucoup moins, un rôle très important. Et comme petit garçon à Vannes, j'avais rencontré des gens de cette société polymatique, cette société savante du Morbihan, qui s'appelait Polymatique, plusieurs sciences. J'ai été très vite introduit dans cette société et cette introduction m'a ravi, m'a comblé parce que le lieu était superbe. D'ailleurs, c'était un petit château du 15e. La bibliothèque était pour moi un rêve. Les réunions dans lesquelles je comprenais sans doute pas grand-chose au départ étaient très régulières et très fréquentées. Et tout ça a bercé de manière intéressante, intelligente et sûrement poétique.
Très poétique.
Ma petite enfance.
Le simple nom, société de polymatique, est poétique d'ailleurs. Et la description du château, je m'imagine, je ne sais pas si c'était le cas, quelque chose comme un cabinet de curiosité, qui manipulent des fossiles, des défenses, des animaux à la fois exotiques ou anciens. Et d'ailleurs, ça... J'en viens à un autre aspect, c'est que dans votre passion précoce, il y a certes le goût de l'avant, caractérisé par ces petits fossiles que vous classez déjà et stockés dans des petites boîtes d'allumettes à l'âge tendre, mais aussi le goût très précoce de l'ailleurs.
Oui, alors ça, je me suis posé un petit peu la question aussi, peut-être que c'est plus général que l'on imagine, mais... J'avais en effet non pas le goût spécialement de partir, j'étais très bien là où j'étais, hein, mais quand même une envie de courir le monde, une envie de découvrir d'autres pays et surtout de découvrir d'autres gens, les autres gens. Les autres gens m'intéressaient et je n'exagère pas. Enfin, à chaque fois que je me suis trouvé dans un certain lieu, dans ces grandes périodes de l'enfance, de l'adolescence et plus tard même, j'ai été fasciné par l'autre. L'autre, pourquoi? Je ne sais pas. L'autre par sa langue, l'autre par son allure, l'autre par le fait que, visiblement, il n'était pas d'ici, mais d'ailleurs. Et j'avais une envie d'aller voir ces pays et ces gens dans leur pays. Et je me souviens très bien que dans ma famille, il y avait une personne qui m'attirait particulièrement. Et ce monsieur, qui était un cousin, avait travaillé beaucoup en Afrique noire, alors ça a sûrement joué. Et je m'étais beaucoup rapproché de lui, sans doute par ses récits, sans doute parce qu'il représentait pour moi le voyage sur pied. Et puis un ami de mon grand-père qui était un missionnaire et qui lui, était au Sri Lanka, et à Ceylan à l'époque. Et ce missionnaire, chaque fois qu'il revenait en France et qu'il revenait voir mon grand-père, j'étais aussi fasciné par le bonhomme qui vivait là-bas, au milieu de d'autres gens, d'un autre pays, d'une autre couleur, avec d'autres coutumes. Et ça participait aussi à construire probablement mon esprit humaniste. J'y tiens beaucoup parce que c'est permanent dans ma vie et dans mon histoire et dans ma réflexion. Et je dois ça sûrement à mon éducation. sûrement que l'éducation a dû jouer un rôle.
Vous en parlez peu d'ailleurs de votre éducation.
Oui, mais c'est parce que, c'est pas exprès, hein, c'est parce que je suis parti dans cette rédaction de mémoire avec un, vous l'avez dit d'ailleurs, avec un point de vue assez professionnel, c'est-à-dire que ça s'est orienté vers l'archéologie, puis la préhistoire, puis la paléontologie, et finalement ça a suffi pour remplir le bouquin en question. Et puis c'était un plaisir pour moi de raconter cela de cette manière-là. C'était un angle facile et en même temps d'un certain intérêt pour le public, le lecteur, je suppose. Mais je n'ai pas spécialement pensé au lecteur. Enfin, c'est pas pour lui que je, c'est pour lui aussi. Mais au départ, c'était aussi un plaisir de faire ce retour en arrière, de regarder dans le rétroviseur, de raconter mon histoire, de retrouver des anecdotes, de retrouver des petites histoires, de retrouver des moments sans nostalgie, mais des moments d'émotion quand même aussi. Donc ceci a fait que ces mémoires ont été orientées plus d'un point de vue professionnel que personnel, avec de temps en temps quand même des petites ouvertures, des petites fenêtres sur ma vie personnelle, parce qu'elle était très liée à ces moments-là, à cette vie professionnelle. Et puis il y a une exception, c'est un petit chapitre sur petit, sur mon fils, puisque je n'ai qu'un enfant, un garçon en l'occurrence, parce qu'on l'a appelé le château manquant, ce que je trouvais très joli, le Missigling. Il est connu dans le monde entier sous le nom de Missigling. Et ça, c'était lié à la fois à Darwin et à moi-même, donc à moi-même en premier quand même. Donc ça m'amusait aussi de l'insérer là-dedans, d'autant plus que ça a été un moment très, très émouvant dans mon histoire, et évidemment bien plus émouvant que les découvertes elles-mêmes, mais qui elles-mêmes étaient remplies d'émotions.
La preuve que vie personnelle et vie professionnelle, comme pour tout un chien-gazard, sont toujours très intriquées, oui. C'est qu'à un moment, une part non négligeable de la communauté scientifique a cru que vous l'aviez appelé Quentin, car c'était le cinquième. Pouvez-vous nous expliquer ça? Ce n'est pas le cinquième fils, puisque c'est l'unique.
Oui, donc, c'est une petite plaisanterie, mais comme il se trouve que dans cette carrière de paléontologie, enfin, j'ai plusieurs carrières, mais elles ne sont qu'une, mais j'ai été plus paléontologue à une certaine époque qu'archéologue, à d'autres époques plus l'inverse. Mais au moment où j'étais paléontologue, je suis parti d'abord au Tchad, j'ai trouvé un fossile humain original. Original, je dis bien, parce que des fossiles humains, j'en ai trouvé beaucoup. Mais un fossile humain qui a mérité un nom de genre et un nom d'espèce au Tchad. Et celui-là, c'était en 61. Et puis j'en ai trouvé un autre en Éthiopie en 67, encore plus vieux. Et puis un autre en Éthiopie en 74, c'était la fameuse Lucie, encore plus vieille. Et puis j'ai signé d'autres fossiles, d'ailleurs j'en ai signé aujourd'hui 6. Mais il se trouve que j'en avais signé 4 au moment où Quentin est né. Et donc 1, 2, 3, 4, c'était un cinquième squelette, le petit Quentin. Et le cinquième, en latin, comme vous savez, ça se dit Quintus, Quintinus, Charles Quint, par exemple. Et donc le Quintus, le cinquième, le Quentin, il a porté le nom d'un autre fossile, d'un autre squelette quand même, ce qui n'est pas fossile du tout, bien sûr. Celui-là, bien enveloppé, enfin, c'était une petite histoire, comme j'aime bien les fabriquer. Et je ne le lui ai pas dit ça tout de suite. Et je vois très bien l'endroit où, dans une conférence, c'était au Zizi. Il était venu écouter ma conférence, il était au premier rang, j'ai raconté cette histoire, et tout d'un coup, il a eu la révélation de ce qu'il portait à la fois sur le dos et comme responsabilité, avec le sourire, c'est-à-dire que ça ne l'a pas touché, heureusement, psychologiquement, au point d'avoir ce poids ce point fossile sur le dos et la conscience. Et alors, comme j'ai... Enfin, ça, c'est une petite plaisanterie, mais c'est amusant à raconter. Comme après, j'ai eu d'autres fossiles... Ça ne s'est pas arrêté là. J'en ai eu un autre, ça a fait le sixième, et puis un autre, ça a fait le septième. Et j'en suis au septième. Et les gens, enfin mes amis très, très proches, en plaisantent, en disant le prochain s'appellera Octave. Mais il n'y a pas de prochain en vue.
Oui, et puis pour rassurer définitivement nos auditeurs, vous rétablissez la vérité, le nom Quentin a été choisi car sa sonorité vous plaisait ainsi qu'à votre épouse.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, Quentin, c'était une petite plaisanterie, mais c'est pas pour ça qu'il s'appelle Quentin, non.
Dans la description de la naissance de votre passion, vous lui donnez deux noms, vous parlez d'archéologite et d'exotite. Toujours l'avant et l'ailleurs. Est-ce que au-delà de la boutade, car le livre est parcouru de sourires, est-ce que c'est une façon de nous dire que finalement une passion, davantage qu'on l'a choisie, elle vous prend ?
Oui, tout à fait, oui. Enfin, en ce qui me concerne, c'est le cas. Et en ce qui me concerne, ça n'a pas été délibéré, ça n'a pas été volontaire. Je veux dire que j'ai eu cette passion tout jeune et pourquoi je vous ai dit que je ne le savais pas très bien. Et j'ai eu cette attirance tout jeune pour les autres. Et je vous ai raconté aussi un petit peu et je ne sais pas bien pourquoi. En tout cas, cette attirance pour les autres et l'ailleurs, et cette attirance pour le passé et l'avant, elle est née, enfin, elles sont nées toutes les deux très très tôt. Et ne m'ont pas quitté, quoi. Aujourd'hui, je suis aussi fasciné, je suis quelquefois triste lorsque j'arrive quelque part avec un ami étranger, qui pour moi en plus est étrange. C'est étrange, dans le meilleur sens du mot, hein. Je suis fier d'être avec un ami d'ailleurs, et quelquefois de loin ailleurs. Et je suis déçu de ne pas voir la même... surprise, le même étonnement, le même intérêt, la même fascination de la part des autres. Enfin, ça, c'est ainsi. En tout cas, pour moi, ça demeure véritablement cela. Et c'est tout à fait ce que j'ai vécu aussi durant tous mes voyages. Et j'ai, je ne dis pas que j'ai fait le tour du monde. Hein. Il me reste des choses à voir, bien sûr, heureusement. Mais enfin, je suis quand même allé dans bien des lieux et là, finalement, la planète n'est pas très grande. C'est terrible, d'ailleurs. Mais j'irai ailleurs de ces jours.
Que vous reste-t-il à découvrir ?
Bah, le système solaire, quand même.
Oui, d'accord, au-delà de la Terre.
Au-delà de la Terre, oui. Mais sur la Terre, si. Il s'est trouvé que je suis allé au pôle Nord parce que... j'y ai été invité par les Russes, mais il se trouve aussi que je ne suis pas encore allé au pôle Sud, et ça m'embête beaucoup. Et je ne connais même pas l'Antarctique, je n'ai même pas aperçu l'Antarctique. Je suis allé loin au Sud, jusqu'au Cap Horn compris, mais pas au-delà. Donc vous voyez, il me manque tout un pan important de notre planète.
Vous dites que la Terre n'est pas si grande, mais pour vous, la deux dimensions quand même, parce que la plupart des gens voyagent en surface de la Terre. Vous, lorsque vous voyagez en surface de la Terre, c'est pour aller gratter le sol, trouver des sédiments, et donc elle a une dimension supplémentaire.
Oui, il y a une petite histoire qui me revient. C'est un enfant qui a dit ça, c'était amusant, parce qu'on ne voit pas très bien ce qu'il veut dire, ou on peut très bien l'interpréter quand même. Il disait, ce qui m'intéresse dans le temps, c'est pas sa longueur, c'est sa largeur. je trouve ça superbe. On peut l'interpréter de mille manières. Mais donc, vous voyez, moi, le temps, c'est à la fois sa longueur et sa largeur qui m'intéressent aussi.
Est-ce que vous avez le sentiment que le monde, c'est un... J'y pense parce que vous me disiez, je suis parfois déçu que les gens n'aient pas le même sentiment d'étrangeté lorsqu'ils
oui,
nous rencontrent.
Oui.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une forme quand même de rapetissement, peut-être dû à l'uniformisation en cours de la Terre, lorsque vous parlez de vos premiers voyages en Afrique, c'est une Afrique plus... J'ose à peine dire le terme, plus exotique, plus mystérieuse, plus étrange qu'elle ne l'est probablement aux yeux de des gens du 21e siècle, non ?
C'est certain. C'est certain que ça n'est pas banalisé pour autant. Mais c'est vrai qu'il suffit d'ouvrir son poste ou sa télé pour voir tel ou tel responsable parti à tel bout du monde et revenant le lendemain pour ses obligations parisiennes, etc., ou ses obligations ailleurs. Donc c'est plus simple, c'est plus facile. Et en ce qui me concerne, les souvenirs d'Afrique, par exemple, l'Afrique était très proche de ma tête et de mon cœur aussi, et de mon esprit en général. Et plus que l'Asie ou plus que l'Amérique amérindienne. Mais vraiment, l'Afrique était très, très présente. Et l'Afrique de mon époque, c'était les timbres-postes. Ça, je me rappelle très bien que je rêvais sur les timbres. Enfin, on rêve sur ce qu'on peut. Et parfois, sur des articles que je trouvais dans des magazines qui arrivaient chez mes parents. Donc c'était très varié, c'était très divers, c'était en fonction de ce qui me tombait sous les yeux ou sous la main. Mais les timbres, comme je les collectionnais, comme beaucoup d'enfants, et puis la collectionnite ne m'a pas pénétré véritablement longtemps, heureusement d'ailleurs, parce qu'un scientifique qui soit collectionneur au début, c'est probablement normal. Qu'il reste collectionneur, ce serait effrayant, ça. C'est pas du tout, c'est presque antinomique, quoi. Et donc, je collectionnais les timbres, et ces timbres d'Afrique me chantaient. Et les noms d'Afrique, pour moi, c'était des rêves, enfin, des noms comme Brazzaville, des noms comme Tombouctou, des noms comme je sais pas quoi. Djamena, ça n'existait pas encore, c'était Fort Lamy. Alors évidemment, c'était lié au colonialisme, bien sûr, parce que à cette époque, c'était la manière dont était découpée la terre et gérée la terre, au point que mes premières expéditions, je dis expéditions parce que c'était vraiment des expéditions, mes expéditions au Tchad, mes voyages et mes expéditions au Tchad, le Tchad était Afrique équatoriale française, AEF. Et quand je dis ça aux étudiants, ils viennent me toucher pour voir si je suis vivant, parce que ça représente quelque chose, évidemment, d'un autre temps. Quand je suis arrivé au Musée de l'Homme, c'était encore ça. C'est-à-dire que le Musée de l'Homme avait grand besoin de réforme, et les cartes étaient encore AIF, AOF, enfin, c'était encore le grand empire. Et je dois vous dire que quand je suis arrivé, justement, à Fort Lamy, aujourd'hui N'Djamena, et que j'ai trouvé un emploi, parce que j'étais CNRS, mais je n'avais pas beaucoup de sous, et j'ai été employé, embarqué comme prospecteur. Alors, comme j'étais dans un service de mine et un service hydrogéologique, c'était à la fois de la recherche de l'eau et de la recherche des minerais, éventuellement. Et bien qu'à N'Djamena, je dépendais de Brazzaville. Et pour moi, c'était un rêve, je n'y étais pas encore allé. Et le fait de dépendre de l'Institut équatorial de recherche et d'études géologiques et minières de Brazzaville, ça a été mon patron à l'époque en Afrique, à partir de 1960, me ravissait, quoi. Le fait de dépendre de Brazzaville me réjouissait beaucoup. Et le commissaire français du Tchad était sous l'autorité d'un commissaire plus général, sans doute, plus important, qui était à Brazzaville. Donc c'était encore le régime AIF, quoi.
Vous parliez des timbres tout à l'heure, ça a dû vous faire plaisir. Alors lorsque la République du Tchad, la jeune République du Tchad, a pour l'un de ses premiers timbres, j'imagine, utilisé l'une de vos découvertes.
Oui, oui. Oui, je suis resté attaché au timbre, encore une fois, sans les collectionner désormais. Et il y a quelque chose que je n'ai pas voulu reproduire, mais qui m'a beaucoup étonné. Le Tchad, au moment de la découverte de Lucie, le Tchad, figurez-vous, a fait un timbre, Mais un timbre utilisable, quoi, un timbre que l'on peut mettre sur, timbre poste qu'on peut mettre sur une enveloppe, avec comme figure Lucie d'un côté et moi-même de l'autre. C'est-à-dire, j'ai un timbre à mon effigie et j'ai pas osé le mettre parce que d'abord j'ai dit plus rien, ensuite je n'ai pas été consulté. Ensuite, je n'ai pas été informé. Rien du tout, rien du tout. Et c'est un jour, sur, me baladant sur Internet, vous savez, il y a toujours au nom que vous tapez sur Google, quand c'est le vôtre, toute une série d'images un peu bizarres parfois. Et parmi ces images, j'ai vu ce timbre. Et jamais personne ne croira que, d'une part, on ne m'a pas demandé mon autorisation, d'autre part, on ne m'a pas informé, et d'autre part, je n'ai jamais eu le timbre en main, jamais, jamais. Je ne l'ai vu qu'en image et sur la toile, comme on dit. Sur l'écran, en tout cas.
Sur le timbre auquel je faisais référence, date lui de 1966, et il présente le tchadanthrope.
Oui, 66, parce que ce tchadanthrope, enfin ce fossile original d'homme ancien, d'homme fossile, le fossile, je l'ai trouvé en 1961. Et après étude, ça a mis quelques années, je l'ai publié en 65 sous un nom nouveau qui n'a probablement pas sa raison d'être, mais comme il était un peu difficile à distinguer des autres, c'est toujours plus facile de donner une sorte de nom comme un prénom, quitte à l'abandonner plus tard. Donc je l'ai appelé Tchadanthropus uxoris, c'est-à-dire l'homme du Tchad de l'épouse, parce que ma jeune femme était avec moi à ce moment-là sur le terrain, et c'est elle qui m'a dit que ce fossile que j'avais rapporté au campement était probablement la face de quelque chose, de quelqu'un. Et c'était quelqu'un avec un Q majuscule, puisque c'était véritablement un hominidé. Donc mon premier fossile, en effet, et ça reste le fossile le plus attachant pour moi, sans doute parce que c'est le premier, quoi. On me dit, Lucie, ça doit vous faire quelque chose. Bien sûr que Lucie me fait quelque chose, bien sûr que Lucie a été une grande découverte, bien sûr que Lucie est aujourd'hui connue dans le monde entier. Mais il n'empêche que le fossile qui est le plus proche de mon esprit et de mon cœur, c'est Tchadanthropus, c'est le Tchadanthrope.
Ce qui est amusant, parce que ça fait référence à ce que nous disions au début de l'émission, c'est que l'édition d'un timbre à l'effigie du Tchadanthrope est utilisée par ce jeune pays récemment indépendant pour souder l'ensemble des différentes communautés ou ethnies sur son sol en lui trouvant un ancêtre commun. C'est finalement une destinée un peu assez proche de celle qu'aura Lucie dans l'imaginaire de l'humanité, mais là à l'échelle de la planète.
Oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ces termes, mais c'est tout à fait vrai. Ben, le Tchad est un pays découpé par le colonialisme, c'est-à-dire qu'il est découpé un petit peu à l'emporte-pièce. Quand vous voyez des frontières qui sont toutes droites, c'est pas bon signe, quoi. Et comme ce colonialisme a découpé les pays sans beaucoup tenir compte des gens, au point que ceux du nord du Tchad, par exemple, ne sont pas du tout les mêmes que ceux du sud. Même chose au Soudan, même chose au Niger, en fait, etc. Il se trouve que le Tchad avait besoin... C'est difficile pour un pays de se redécouper. C'est ce qu'a fait le Soudan, mais sans dommage. Donc, comme c'est difficile de se redécouper, ils ont pris ce qu'on leur avait donné, c'est-à-dire ce découpage un petit peu artificiel, et une manière de réunir les gens. Enfin, c'est essentiel de réunir les gens. Hein. C'est ce que font toutes les grandes civilisations du monde. C'est ce qu'a fait le mégalithisme, par exemple, en Bretagne. Mégalithisme néolithique. En tout cas, pour réunir les gens, il fallait quelque chose et quelqu'un. Et la découverte du Tchadanthrope a été pour eux une aubaine, parce que les Tchadiens ont entendu à ce moment-là dire qu'il y avait vraiment un papa du Tchad, et que ce papa avait été découvert. Vous savez, c'est un peu la même chose que les palafites en Suisse. Les archéologues suisses m'ont souvent dit que les palafites qui ne sont véritablement pas ce qui avait été envisagé au départ, c'est-à-dire des villages construits sur l'eau, c'est devenu ça ensuite parce que les lacs ont un peu oscillé dans leur rivage. Mais les palafites auxquels on ne croit plus en tant que tels sont restés un petit peu la base sur laquelle s'est construite la confédération helvétique.
Nos ancêtres les Gaulois vers Saint-Gétorix.
Oui, oui. Nos ancêtres les Gaulois, bien sûr. Oui.
Alors, le visage aussi remplit un peu ce rôle à l'échelle de l'humanité entière. Toutefois, c'est aussi une vision un peu mythifiée, médiatique, ouais. Reconstruite. Vous nous expliquez au fil du chapitre qui lui est consacré que c'est pas du tout notre grand-mère.
Oui, oui, mais ça n'a pas d'importance, quoi. À partir du moment où, malgré nous, c'est pas du tout une décision, et c'est pas du tout une stratégie non plus. Ce petit fossile est devenu connu, sympathique, accepté, même célébré. C'est devenu un petit peu l'ancêtre de l'humanité. Alors que sur le plan scientifique, on constate, en tout cas certains d'entre nous, dont je suis, que ce ne serait pas l'ancêtre véritablement, mais plutôt une cousine. Ça n'a plus d'importance parce que elle fait partie. C'est à la fois vrai et faux, quoi. Elle fait partie d'un vivier dans lequel se trouve forcément l'ancêtre de l'homme, puisque l'homme a forcément un ancêtre. Donc même si c'est pas un ancêtre direct, c'est un d'entre eux. Et donc c'est très bien ainsi. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que sur le terrain. Nous est venu ce nom de Lucie parce qu'elle s'appelait AL288 et c'était pas très poétique. Et Lucie parce qu'on écoutait la chanson des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, enfin, c'est devenu presque une légende. Et les premiers journalistes qui, à Addis Abeba, ont appris qu'on avait appelé ce fossile Lucie. Comme on était sur le terrain et qu'on n'était pas à leur disposition, on n'était pas là sous leur nez, et puis on n'avait pas de contact, ils ont inventé quelque chose. Ils ont dit, ce petit groupe de chercheurs a pensé découvrir les origines de l'humanité, et donc ils ont donné à leur fossile le nom de la lumière, Lux, Lux comme Lucie, Lux comme la lumière, et c'est parce qu'ils sont éclairés sur nos origines. Alors ça, je vous assure que, imaginez une trentaine de types, on n'était pas plus de 30 là, je pense, une trentaine de jeunes gens sur le terrain, on avait vraiment d'autres choses à faire que d'avoir ces réflexions intellectuelles, de se dire, on va lui donner un nom latin, Lux, c'est joli, Lux comme la lumière, mais c'était pas du tout le cas.
On peut quand même rappeler pour nos éditeurs, là, pourquoi sa découverte est finalement si importante, même si elle n'est pas notre grand-mère ou une nouvelle Ève l'humanité.
Oui, une nouvelle Ève, c'est vrai que c'est un peu quelque chose comme ça. Ben c'est tout simplement parce qu'en 1974, nous étions sur le terrain depuis 1967 en Éthiopie, depuis 1972 dans le nord-est de l'Éthiopie, où a été trouvée donc Lucie. Donc en 1974, on trouve ce squelette, et c'était important, on ne se rend pas bien compte de ça, et je peux le comprendre. C'était important parce que dans ces terrains-là, ce sont des terrains souvent mobiles, des terrains fluviatiles par exemple. Donc les rivières ont déjà récupéré les cadavres, puis en ont gardé les squelettes, puis en ont éparpillé les ossements des squelettes. Donc en général, quand on trouve un morceau de ses ancêtres de millions d'années, c'est vraiment un morceau, c'est un bout de mâchoire, quelques dents, un bout d'os long, souvent embrisé, en fait, etc. C'est rarement un être complet. Il faut que l'homme soit enterré, par exemple les Néandertals, il y a 100 000 ans, pour que là, on trouve un squelette entier parce qu'il a été enfoui de cette manière bien délibérée. Et donc c'était important de trouver un petit squelette qui, sans être entier, était moins incomplet que les autres. Il n'était pas complet, mais moins incomplet que les autres. Donc ça a été une première chose. Parce que moins incomplet, ça signifiait qu'on en trouvait les ossements, on en trouvait les articulations. Donc on en trouvait, si on trouve les articulations, on sait comment fonctionnent les membres en question, on sait comment se tient l'être en question, on sait quels sont ses gestes. Les gestes, c'est un peu fonction de l'environnement, enfin, on sait beaucoup de choses. Et puis, on en sait la taille. Lucie était petite, un peu plus d'un mètre. On en sait le poids, estimé. Lucie avait autour de 20-25 kilos. C'est une petite... C'est un petit personnage, oui, c'est un tout petit personnage. Et c'est une petite femelle, une petite préhumaine femelle, mais quand même. À l'époque, les gens n'étaient pas grands, loin de là. Et donc, ceci a joué beaucoup. Et ensuite, dans mon labo, ici à Paris, je le dis parce que je suis fier, c'est ici que ça s'est passé, on a trouvé que Lucie était debout, certes, donc elle était bien préhumaine, c'est une caractéristique des hominidés. Lucie, étant debout, marchait sur ses deux pattes postérieures, pas très bien d'ailleurs, ce qui peut se comprendre étant donné son âge. Et Lucie était aussi arboricole. Donc le fait qu'on trouve un squelette moins incomplet que les autres, le fait qu'on trouve cette chose extraordinaire, c'est qu'à son époque, elle était à la fois debout, bipède et arboricole, et le fait que les datations, qui étaient au départ des datations relatives par les fossiles de vertébrés qui l'accompagnaient, et ensuite est devenu une datation absolue, datation par une désintégration de produits radioactifs dans un niveau volcanique. Tout ceci lui a donné une date convergente de plus de 3 millions d'années. Et en fait, on en est aujourd'hui à 3 180 000, quelque chose comme ça, plus ou moins quelques dizaines de milliers, quoi. Donc, elle était presque complète, elle était, enfin, moins incomplète que les autres. Elle était très âgée, c'était un maximum à l'époque, c'était un record à l'époque. Et puis, cette découverte, quand même assez étonnante, qui a surpris beaucoup et qui n'a pas été reçue favorablement par toute la communauté scientifique internationale à ce moment-là, le fait qu'elle soit à la fois, qu'elle ait deux locomotions, quoi. Tout ça a fait son succès, plus le fait, encore une fois, qu'on lui a dessiné ses limites, sa silhouette, et sa silhouette l'a fait revivre. Elle est devenue un personnage, comme elle était petite, exotique, ancêtre, enfin tout ça a fait un curieux mélange. Ça a plu au public qui l'ont retenu plus qu'un autre personnage représenté par un Boudos. Et ça a plu beaucoup aux enfants aussi, c'est important. C'est important. Moi, je rencontre beaucoup de gens aujourd'hui qui ont un certain âge et qui me disent « j'ai appris Lucie à l'école et ça me touche de faire votre connaissance enfin, ». C'est amusant.
Ou voir de choisir ses vocations.
Oui, absolument.
De la même façon que...
Oui, il y en a eu, bien sûr, des vocations à partir de ce moment-là, oui, bien sûr. Ben, il suffit d'une petite étincelle de ce genre, quoi. Pour que l'étincelle mette le feu à un certain nombre d'esprits. Et voilà, je suis une sorte d'incendiaire.
Vous imaginez le nombre de vocations qui ont dû être déclenchées aussi par votre énorme mammouth, oui. Exposé en différents lieux de la capitale.
Oui, alors le mammouth, c'est une toute autre histoire. Vous la connaissez si vous avez lu le livre. Il se trouve que j'étais pas très attiré par les mammouths à mon époque enfantine, parce que j'en avais pas sous la main, quoi. Et que c'est à Paris, à la Sorbonne, que les circonstances ont fait que le patron que j'avais retenu pour une thèse et qui avait accepté d'en être le directeur m'a proposé de travailler sur les proboscidiens, sur les vertébrés. Les vertébrés proboscidiens, ça veut dire les vertébrés à trompe, c'est-à-dire les éléphants, les mastodontes, les stégodontes, les stégotétrabulodontes, enfin, tellement de bêtes. C'est très, très diversifié, le monde des éléphants. Et,
oui, on ne confiait pas à un jeune chercheur des fossiles d'eau humain, et c'était trop rare et trop précieux, c'est ça?
C'est pour ça, oui, c'est-à-dire que mon rêve, c'était de toujours humaniste, quoi. C'était vraiment de travailler sur l'âme, et travailler sur l'origine de l'âme, travailler sur l'ancienneté de l'âme, l'antiquité de l'âme. Mais à la Sorbonne, on m'a dit non, c'est trop petit, trop jeune, pas tout de suite. Donc on m'a donné d'autres choses, et les autres choses, je m'y suis intéressé beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que je n'ai pas pris ça en attente, j'ai pris ça à bras-le-corps, comme je le fais toujours, vous savez. Vous ne pouvez pas savoir, mais mon caractère est comme ça, c'est-à-dire que je ne suis pas tout à fait d'accord, je traîne un peu les pieds, puis une fois que ça y est, c'est fait, c'est décidé, je m'y mets véritablement, je ne m'y mets jamais à moitié, quoi. C'est vraiment, vraiment complètement. Et donc, je me suis mis complètement dans le monde des éléphants, et ça m'a valu de disséquer un éléphant au jardin des plantes, ça m'a valu de monter le squelette d'un mammouth au muséum, ça m'a valu de partir en Sibérie chercher des vrais mammouths des vrais cadavres de mammouths dans leur permafrost. Et ce que vous évoquez là, c'est le fait que, qu'en effet, ayant été lauréat de la Fondation de la Vocation, qui s'appelle aujourd'hui à juste raison Fondation Marcel Bloch-Blanchet pour la Vocation, puisque Marcel Bloch-Blanchet était le créateur de cette fondation, j'ai voulu participer à une exposition qui a été faite en 69. Alors 69, c'était le 10e anniversaire de la Fondation. Moi, j'avais été lauréat en 63. Et pour le 10e anniversaire, son créateur, Marcel Bloch-Blanchet, a voulu faire une exposition de créateurs, justement. Autrement dit, d'artistes, quoi. Sculpteurs, peintres, etc. Et ça m'a beaucoup choqué, parce que c'était une espèce de division entre certains lauréats et d'autres. Pourquoi spécialement les créateurs fêtant le 10e anniversaire et pas les autres? Donc j'ai râlé, j'ai téléphoné à Marcel Bloch-Blanchet, qui a bien reçu mon appel et qui m'a dit, c'est drôle, qui m'a dit: qu'est-ce que vous proposez? Toujours prêt à prendre, quoi. C'était très bien.
Ah, il avait ce talent.
Oui.
Professionnel aussi.
Absolument. Mais oui, plein de vocations aussi. Et il m'a dit qu'est-ce que... Il m'a pas dit d'accord tout de suite, mais il m'a dit: qu'est-ce que vous proposez? Il a l'air de dire, ce pauvre type, au milieu de ces oursoirs, qu'est-ce qu'il va nous faire? Et je lui ai dit un mammouth. Ah, quand même, ça l'a frappé. Et donc il a coupé la communication téléphonique, m'a rappelé et m'a dit d'accord. Et donc j'ai transporté mon petit mammouth de Sibérie que j'avais mis sur pied en 57, à 57 quand même.
Petit mammouth, c'est une façon de parler. Hein.
Au muséum. Oui, enfin c'est un petit mammouth parmi les grands, quoi. C'est un petit grand, quoi. Et donc j'ai transporté c'était drôle d'ailleurs, ne serait-ce que le transport, quoi. Le transport du mammouth dans les rues de Paris jusqu'à la Maison de la Radio, quand même, c'était un bout à l'autre. Hein. Jardin des Plantes, c'est vers l'est, Maison de la Radio, c'est vers l'ouest. Le mammouth a fait la traversée de Paris, et je l'ai mis sur pattes, comme je l'avais mis sur pattes au Jardin des Plantes, je l'ai mis sur pied à la Maison de la Radio, et il a trôné là au premier étage pendant toute la durée de l'exposition. Il a été photographié. En quantité, il était. J'ai toujours ces coupures de presse. Il a été photographié avec un certain nombre de célébrités de l'époque qui voulaient se faire prendre devant lui, parce que c'était un joli cadavre, quoi. C'est un joli squelette. En plus, il a deux défenses. Enfin, les défenses des éléphants sont bien connues. Les défenses des mammouths sont superbes. Sont des forces spiralées, elles sont très très longues, très grandes, très belles. Donc c'est très spectaculaire, c'est très joli sur le plan graphique aussi. Et je me rappelle comme ça, il y a eu beaucoup de photos, mais je me rappelle de Marcel Achard. Marcel Achard s'est photographié devant le mammouth. Et à la fin de cette expo, j'ai eu le premier prix des créateurs. Donc vous voyez, j'avais eu raison d'exposer mon mammouth comme une sorte de sculpture naturelle, mais c'était un peu un abus de pouvoir, là, un abus de confiance.
À travers l'histoire tant des mammouths que de Lucie, je crois qu'il y a un acteur non nommé, c'est le climat, car si j'ai bien compris, Lucie choisit la bilocomotion car elle est dans une phase de transition climatique. Après avoir évoqué cela, est-ce qu'on pourra évoquer la troisième partie de votre vie dans laquelle vous avez travaillé sur ces questions de climat et d'environnement ?
Oui, ben le climat m'a toujours intéressé, probablement parce que je suis naturaliste à la mode ancienne. C'est pas exprès. Mais comme j'ai fait mes études supérieures au moment où les sciences naturelles, c'était ce qu'on appelait sciences naturelles, qu'aujourd'hui on appelle un peu sciences de la vie et puis sciences de la terre, c'était à la fois la géologie, tous les cailloux, la zoologie, tous les animaux, la botanique, toutes les plantes. Enfin, on n'y allait pas de main morte, hein. C'était des gros boulots de mémoire, gros boulots de mémoire. Mais ça m'a passionné. Et donc, cette formation plurinaturaliste a fait que sur le terrain, je m'intéresse à tout, forcément. Enfin, étant donné ma petite formation dans ces domaines-là, je ne suis pas un géologue spécialisé, je ne suis pas un zoologue spécialisé, sauf dans les mammouths. Donc, quand vous êtes sur le terrain, avec cette formation naturaliste, vous regardez tout. Vous vous intéressez aux cailloux, aux pierres, au sol, au sous-sol. Vous vous intéressez aux plantes qui sont là-dessus, sur ce sol, aux animaux qui fréquentent ce monde, et donc au climat qui fabrique tout ça. Et ça joue beaucoup, c'est-à-dire que je me suis trouvé souvent, longtemps, avec des collègues américains, par exemple, sur le terrain. Leur formation, même leur formation ancienne, n'était pas du tout celle-là. Ils étaient tout de suite très spécialisés. C'est-à-dire que moi, je me suis trouvé avec des gens qui, en dehors de leur sujet de thèse, qui quelquefois était précis, par intérêt personnel, allaient tout droit vers les hommes fossiles ou tout droit vers, quel type de plante ou quel type de bestiole, mais au lieu d'avoir une vue générale. Et encore une fois, ma vue générale, je m'en réjouis, je m'en suis beaucoup servi, mais cette vision générale, elle est due à ma formation, et ma formation, elle est due au fait que c'était de cette manière-là qu'en France, on apprenait les sciences naturelles à mon époque, quoi, c'est tout. Ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a fait voir les environnements, ça m'a fait comprendre le premier, mais c'est comme ça, parce que tout simplement les autres n'étaient pas orientés vers ce genre de grande synthèse. Ça m'a fait comprendre le premier, le rôle de l'environnement dans l'évolution de l'homme et dans les grandes étapes de l'évolution de l'homme. Et la première étape, c'est l'émergence du préhumain, celui dont vous parlez. C'est-à-dire l'émergence d'un être qui, au lieu de n'être que quadrupède, devient bipède, mais demeure arboricole. Et c'était Lucie. Et de la même manière, l'émergence de l'homme, pour moi, n'est due aussi qu'à un autre changement climatique venu un tout petit peu plus tard, un tout petit peu après Lucie, et qui est un assèchement du milieu, du climat, et qui a entraîné une disparition de tout le milieu arboré au profit de l'herbe, au profit d'une savane et puis finalement d'une steppe. Et c'est l'origine de notre naissance.
Alors, à travers la fresque que vous venez de brosser, on sent qu'il y a... je vois deux aspects. Le premier, l'homme fait intégralement partie de son environnement, son destin lié à celui-ci. Oui. Mais on découvre aussi son extraordinaire capacité d'adaptation. Dans le cadre actuel, que faut-il retenir ? Les deux messages de façon synchrone, faire primer l'un sur l'autre. On sent que dans le concert général d'inquiétude, et on les comprend, concernant les changements climatiques, vous apportez une petite note plus optimiste que la moyenne.
Oui, c'est-à-dire que pour n'importe quel géologue, vous savez, les changements climatiques sont une grande banalité. Toute l'histoire de la Terre, c'est une histoire de changement climatique. Le climat n'a cessé de changer. Et s'il change en ce moment, ce n'est pas très original. Ceci étant dit, s'il change en ce moment, c'est de manière naturelle, certes, mais aussi peut-être de manière un peu artificielle, c'est-à-dire un peu humaine. Peut-être que l'homme, étant donné son développement démographique et le développement de sa culture, et de sa technologie a fait malgré lui en sorte que ce climat qui participe aussi au changement climatique. Donc c'est en ce sens que la responsabilité de l'homme est engagée et que c'est bien en effet qu'on s'en préoccupe et qu'on fasse en sorte que cette partie humaine, en tout cas qui est à notre portée, soit réduite. Ça ne réduira pas le reste. Hein. De toute manière, le climat changera. Et il changera dans ce sens-là ou dans un autre, mais enfin, de toute façon, il changera. Sauf si la science devient suffisamment puissante pour jouer aussi sur ces changements. Et je crois beaucoup à la science, donc je pense qu'un jour, elle pourra en effet maîtriser les changements climatiques, maîtriser le déplacement des plaques continentales ou marines. Et je pense que l'homme sera capable de beaucoup de choses et de bien plus de contrôle sur sa propre planète. Ceci étant dit, aujourd'hui, il y a ce changement. Mais ce changement, il n'a pas besoin de tous les éléments d'origine. Je veux dire que il y a 3 millions d'années, quand l'homme est né, il était nu. Il était bien obligé de faire avec tout ce qui lui arrivait. Il subissait, au sens propre du terme et total du terme. Aujourd'hui, ayant depuis 3 millions d'années inventé l'environnement culturel, l'environnement culturel, pour un naturaliste, c'est tout ce qui n'est pas naturel. Donc l'environnement culturel, c'est tout ce qui nous entoure, c'est le fait qu'il fait frais aujourd'hui et que je me suis couvert, et c'est le fait que on n'a plus besoin de se tracasser du fait que le changement climatique opère. Si sur le plan latitudinal, la chaleur monte du sud vers le nord, ben on changera simplement d'agriculture, que c'est tout. On ne plantera pas les mêmes choses. Mais ça, c'est pas très grave. Par contre, sur le plan culturel, ce qui est plus grave, plus intéressant, c'est le fait que la science continue à se développer, et c'est le fait que la culture continue à se développer, c'est-à-dire les inventions continue à apparaître. Et comme vous le savez bien, la science, c'est à la fois la description du monde et en même temps la tentative de description de la manière dont fonctionne le monde, marche le monde, et en même temps la manière dont on peut appliquer bien sûr au bénéfice de l'homme de préférence, la manière dont fonctionne ce monde. Et dans les applications, eh bien, il y a tous ces développements technologiques qui nous font peur, tout simplement parce que l'avenir a toujours fait peur à toutes les humanités successives. Le passé, on s'y complaît parce que c'est pas gênant, c'est passé. Le présent, on connaît ses limites, mais on connaît aussi le confort qu'il apporte. L'avenir, on n'en sait rien, c'est plein d'incertitudes. Donc ça fait peur. Et j'ai eu un jour, enfin il n'y a pas longtemps, un article à faire, c'était pour le New York Times, sur l'avenir justement. Et je l'avais appelé le syndrome de ma belle-mère, c'est pas gentil. Hein. Et le New York Times a accepté d'ailleurs mon article, mais ils ont changé le titre, ils ont mis le syndrome de ma grand-mère. Et je mettais le syndrome de ma belle-mère parce qu'il se trouve que ma belle-maman, qui est charmante, commence néanmoins toutes ses phrases par « avant ». Et « avant », à chaque fois j'entends « avant », ça me fait des frissons. Et forcément, « avant », c'était mieux. Et aujourd'hui, c'est pas brillant. Et demain, c'est épouvantable. Quoi. Et je trouve que ce discours est effrayant pour les jeunes, quoi, pour les jeunes d'aujourd'hui et les jeunes dont l'avenir s'ouvre et dont l'avenir est superbe. Donc moi, j'essaye de rectifier ça, non pas pour faire plaisir aux jeunes, mais parce que je pense vraiment que ça a été comme ça de tout temps. Quoi. Quand je prends comme exemple, j'en ai pris beaucoup dans cet article, mais je prends comme exemple Homo erectus. Le petit cratrope, l'Homo erectus, il y a quelques 700, 800 000 années, disons un petit million d'années, a été une société brillante qui s'est déployée à travers une grande partie de la Terre. Et un certain nombre de jeunes gens de cette époque-là ont trouvé le moyen d'apprendre à faire du feu. Et ben, toutes les belles-mères de l'époque, toutes les grands-mères de l'époque ont dit « c'est effrayant, ces petits salopards, ils vont mettre le feu à la Terre entière ». Et l'avenir est épouvantable et notre planète est fichue. Et c'est pour ça que quand j'entends aujourd'hui « Sauvons la planète », je dis aux jeunes gens « Vous avez raison, faites attention à l'avenir, faites en sorte que vous ayez une certaine partie, en tout cas, du développement de votre planète. Mais sauvons la planète, c'est pas la peine, elle est tout à fait tranquille et il n'y a pas de problème, elle n'est pas en danger, la planète n'est pas en danger du tout. »
C'est le géologue qui parle, hein.
La planète en a vu d'autres.
Et pour ces jeunes générations, vous n'avez pas le sentiment néanmoins d'une part de rupture? On n'est pas seulement géologue, on ne raisonne pas seulement sur les structures, mais anthropologue, les développements de la science qui consistent à modifier l'humain lui-même et à ne plus laisser la capacité d'adaptation spontanée de l'homme se faire, que cela vous inspire-t-il?
Oui, mais les capacités d'adaptation, il y a longtemps qu'elles sont sous le coup de ce développement culturel. Et donc ça ne change pas grand-chose. Mais je ne suis pas devin. Hein. Et puis la paléontologie s'en tire très très bien, parce que le paléontologue vous dit, comme l'évolution est circonstancielle, c'est-à-dire événementielle, par définition, on ne peut pas prédire l'avenir, donc c'est très confortable. Ceci étant dit, c'est vrai que je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai quelques regards de curiosité, quelques regards d'inquiétude, peut-être moins d'inquiétude que d'autres, mais enfin, d'inquiétude aussi vers cette maîtrise de plus en plus grande de... non seulement de la molécule, mais aussi de l'atome, et du même coup des gènes, du même coup de l'ADN et de sa longue séquence de 3 milliards de paires de bases, quand même, sur lesquelles on peut jouer. Alors, sur le plan sanitaire, c'est un bien. Sur d'autres plans, ça peut être en effet très, très dangereux et très catastrophique. Mais toute découverte, je reviens au feu, quoi. Toute découverte a ses mauvais côtés. Le feu, il y a quand même des incendies aujourd'hui, et qui sont des incendies volontaires, qui sont dus à ce fichu pithécanthrope d'il y a un petit million d'années. Le feu nucléaire, c'en est un autre feu. Il est somptueux. Sur le plan de l'énergie, on n'a pas trouvé mieux jusqu'ici. Sur le plan de son application à la médecine, il est magique. Mais les déchets nucléaires, on ne sait pas quoi en faire, hein, c'est d'actualité. Ils sont dangereux. Et puis l'énergie nucléaire elle-même, lorsque elle n'a pas la sécurité qui convient, Elle peut être aussi catastrophique. Donc, sans parler de la bombe, enfin, sans parler de la bombe qui a exploité ces mêmes principes. Donc, c'est pas une raison. Hein. Ce que je dis n'excuse rien. Mais il y a à chaque fois une face superbe qui permet d'avancer, et puis une face dangereuse, très dangereuse, et dont il faut rester responsable et qu'il faut avoir à l'œil, incontestablement qu'il faut avoir à l'œil. Mais ça fait partie de la nature humaine. Je veux dire que je me suis amusé, surtout pour des conférences, à montrer que le développement de la matière, au départ, c'était de plus en plus compliqué et de mieux en mieux organisé. Puis le développement de la vie, c'était de plus en plus diversifié, mais de plus en plus contrôlé par l'hérédité. Et le développement de l'homme, c'était de plus en plus libre, libre quand même, la liberté. Et la connaissance et l'enseignement et l'apprentissage, ça fait partie de la liberté. Ça ajoute à la liberté, ça rend plus libre. Mais de plus en plus responsable aussi. C'est-à-dire que c'est effrayant, parce qu'on a une liberté fantastique, mais on a, ce qu'on oublie quelquefois, la responsabilité de cette liberté sur les bras. Donc au fond, notre destinée, on la maîtrise un peu sans se prendre pour des dieux. On la maîtrise, on doit la maîtriser. Enfin, on la maîtrise.
Elle est entre nos mains.
Elle est entre nos mains. Elle est à notre service, mais aussi, elle doit aussi être tenue à l'œil parce qu'elle peut être dangereuse à tout moment.
C'est une définition de l'humanisme, peut-être, en tout cas d'une posture humaniste face aux enjeux, non ?
Ben, moi, je reste très confiant dans l'humanité, parce que ce que j'ai vu au fil de mon existence, c'est que en dérapant vers une grande faute, une grande catastrophe, l'humanité se reprend toujours. Et l'organisation a toujours gain de cause. Je me suis trouvé dans des pays à travers le monde qui étaient en désarroi total, qui étaient dans des états où n'importe quoi pouvait se passer n'importe quand. Enfin, et en l'occurrence, comme j'étais dedans, ma vie elle-même ne tenait qu'à rien du tout. À rien du tout. Je pouvais être abattu à tout moment, à tout instant, sans aucune raison et pour... Et sans aucune justification, par la même occasion, et sans aucun avertissement. Ceci étant dit, moi j'ai vu ces pays à chaque fois se remettre sur pattes et à chaque fois se réorganiser. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'humanité est un peu comme ça. C'est-à-dire que quand elle fait des bêtises, elle se rend compte suffisamment à temps pour se rattraper. Enfin, j'en sais rien si ça marche comme ça. Un sociologue serait plus brillant que moi dans ce genre de démonstration. Mais ça veut dire que je crois en l'homme, que je crois en l'humanité, que je crois que l'humanité, quel que soit son désarroi ou ses dépassements parfois, est capable de reprendre une route agréable. Ceci dit, je vous dirais un peu comme je dis à mon fils, ne sois surtout pas raisonnable. C'est vrayant de dire des choses comme ça. Quand je dis ça aux jeunes gens ou aux petits dans des classes, les instituteurs sont malades, sont morts de peur. Ne sois surtout pas raisonnable, mais sois raisonné. Et finalement, c'est un piège, parce que si on est raisonné, on est forcément raisonnable. Enfin, c'est... Le raisonnement, la raison fait que on ne déraisonne pas à outre mesure.
On conserve l'imagination peut-être pour revenir à celle-ci que vous décrivez comme une vertu. Nous vous remercions tous pour cette leçon de bienveillance à l'égard de nous-mêmes, êtres humains et donc d'humanisme. Je l'ai ajouté, nous en avons bien besoin. Mais nous l'avons reçu aujourd'hui. Merci beaucoup Yves Coppens. J'incite nos auditeurs à se plonger dans votre ouvrage, entremêlant les origines de l'homme et les origines d'un homme. C'est publié aux éditions Odile Jacob, Origine de l'homme, origine d'un homme, mémoire par Yves Coppens. Merci encore.
Merci.